Neuvième rencontre de la conférence Sainte-Catherine d'Alexandrie, groupe de philosophes chrétiens, le samedi 26 novembre 2022, sur le thème « L'analogie ». Marc Conturi, Dax, Métaphore et vérité.
Oui, il y aura forcément des objections, ou en tout cas, voilà, parce que, en fait, je prends un parti, pratiquement avant d'avoir commencé mes recherches, c'était de défendre en quelque sorte la métaphore, et même de montrer qu'elle a quelque chose à nous dire que l'abstraction ou l'attribution propre ne dira pas. Alors, effectivement, on peut le défendre d'un point de vue littéraire, mais peut-être pas que. Et puis, évidemment, il s'agira aussi de la proportionnalité. À ce propos, d'ailleurs, dans Leibniz, il y a un texte dans la monadologie que j'ai souvent cité en classe, surtout quand il y avait le thème du vivant, paragraphe 64, où il dit que le vivant est une machine divine. Alors, justement, là, ça marche assez bien. Voilà, en gros, le vivant est à... le vivant est à X, c'est oui. Que la machine est à l'homme. Et les élèves trouvent tout de suite le X. Alors, sauf que, bon, évidemment, le X, c'est Dieu. Et il n'y a pas de proportion entre Dieu et les créatures. Et donc, effectivement, là, il y aurait une objection. Hein. Alors, bon, et des métaphores, il y en a hein, dans la philosophie en général. Ça peut varier selon les auteurs. Voilà, c'est... Alors... Je commencerai par la métaphore en tant qu'elle suppose un éloignement et à la fois une correspondance entre les termes qui sont, disons, rapprochés. Dans sa poétique, Aristote définit la métaphore, au chapitre 21, de la manière suivante. La métaphore est le transport du sens d'un mot. D'ailleurs, métaphore veut dire transport. Hein. Méta, au-delà, foreign, ferein, porté. Alors, ou du genre à l'espèce, ou de l'espèce au genre, ou de l'espèce à l'espèce. Là, me demandez pas ce que ça veut dire, parce que je vois pas comment on peut transporter d'espèce à espèce, par exemple. Ou un transfert par analogie. Et c'est surtout ça que je retiendrai. Donc, la métaphore est un transport, un déplacement du sens d'un mot. Et c'est surtout donc au dernier sens que donne Aristote qu'on va s'intéresser, et c'est d'ailleurs celui qu'on a retenu, hein, parce que c'est, je crois, la conception qui se fait là de la métaphore, elle recouvre même la synecdoque, la métonymie et d'autres figures, quoi. Donc voilà, transport par analogie. Au-delà de l'analyse linguistique, la métaphore suppose une intelligence analogique des choses, c'est-à-dire la compréhension d'un rapport entre elles. Alors même qu'elles sont d'espèces et de genres différents. Le procédé métaphorique est d'autant plus saisissant qu'il compare des réalités hétérogènes entre elles, alors sur un point donné. Et là, je suis tombé sur cette citation donnée par Paul Ricoeur dans La métaphore vive, dans une note, dans sa sixième étude, puisque c'est divisé en études, une citation de Pierre Reverdy, donc un poète, et qui a une grande importance, et on va s'en servir, à vrai dire, dans toute la suite. Voilà ce qu'il dit. « Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus l'image sera forte, plus elle aura de puissance émotive et de réalité poétique. » Voilà. Alors évidemment, on peut prendre cette citation pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour un propos d'artiste qui a essentiellement, disons, une conséquence esthétique. Donc il s'agit d'abord ici de l'effet esthétique. Justesse et éloignement à la fois des termes rapprochés. Mais comment peut-on parler de justesse et d'éloignement sans présupposé ontologique ? Et en effet, dire que des réalités sont éloignées présuppose une classification, au moins intuitive, des êtres. Dire qu'il existe néanmoins une justesse possible de leur rapprochement, c'est présupposer qu'elles possèdent une portion d'intelligibilité commune. Une sphère de ressemblance, ça c'est une expression de Ricoeur. Il parle aussi d'ailleurs, Ricoeur, alors, je ne sais plus qui est-ce qu'il commente à ce moment-là, mais peu importe, il dit qu'il y a une assimilation dans la métaphore, l'une à l'autre, de deux aires de signification par le moyen d'une attribution inédite. Intéressant. Donc, en tout cas, il y a voilà, deux portions d'intelligibilité qui sont en quelque sorte assimilées. Et de manière inattendue, de manière inédite, parce que bon, si c'est trop évident, ça ne marche pas, si je puis dire. Enfin, ça ne sera pas vraiment une métaphore. Alors, cette portion d'intelligibilité commune peut être accidentelle ou essentielle, je précise. Par exemple, si je dis, si je dis cet homme est un lion, eh bien, c'est un trait essentiel de cet homme que j'entends signifier par un trait essentiel du lion. Par exemple, la force dominatrice. Par contre, si je dis le lac d'or, hein, D apostrophe or, j'ai trouvé les exemples que je pouvais. Donc, le lac d'or, eh bien, je signifie l'apparence momentanée d'un lac en renvoyant à l'apparence de l'or. Donc là, c'est accidentel, vous voyez, c'est une apparence qui renvoie à une apparence. Si la poésie privilégie le sensible, elle privilégiera du coup les ressemblances accidentelles de ce dernier type, seulement fondées sur des qualités sensibles. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas de grande portée métaphysique, faut reconnaître. Une telle poésie, je me souviens de Frère Pavel, quand on faisait des lectures de poésie, et il avait dit, et je comprends, il avait dit, finalement, la poésie, c'est un très faible niveau de connaissance. Il n'avait peut-être pas dit comme ça, mais c'était un petit peu, voilà, une détente de l'esprit. C'est pas, c'est pas discursif, c'est sûr. Une telle poésie, donc, ne parlera pas tant des êtres eux-mêmes que du sujet sentant, hein, comme centre sensoriel autour duquel gravitent des impressions qu'il pourra comparer selon sa fantaisie. Hein, que les impressions des choses soient analogues n'implique nullement que les choses elles-mêmes soient analogues dans leur être, hein, dans leur essence. L'analogie n'est alors qu'esthétique, et le principe par rapport auquel ces impressions seront analogues n'est autre que le sujet lui-même. Ce n'est pas la vérité de l'être extramental qui se révèle alors, mais celle du sujet sentant, qui, se faisant le centre de tout, peut aisément concevoir le monde comme un système d'impressions où tout serait analogue, en effet. Bon, c'est la synesthésie. Mais qu'est-ce que ça nous apprend? Ben, pas grand-chose, sauf la sensibilité du poète, auquel le lecteur ben, s'accordera ou pas. Alors cependant, plus profonde est la poésie qui entend pénétrer dans les essences et oser des comparaisons, des rapprochements pouvant instruire sur les essences elles-mêmes, ou du moins sur celles du comparé. Par exemple, là encore, j'ai fait ce que j'ai pu pour les aiguilles. Pierre-Emmanuel, donc un poète contemporain que vous connaissez peut-être, appelle dans un poème qui s'appelle Dire je t'aime, le recueil s'appelle Sophia. Il parle de l'homme et de la femme en les comparant, ou plutôt en les appelant, deux miroirs vivants. Alors il entend ainsi dire que l'homme se connaît par la femme, et la femme par l'homme, on peut l'interpréter ainsi en tout cas. Donc, une propriété essentielle de ce que sont l'homme et la femme l'un par rapport à l'autre. Donc il y a dans ce discours une prétention métaphysique. Et c'est ici que se situe la plus haute vérité dont le discours métaphorique soit capable. Je pense qu'on peut distinguer vraiment les poètes, on peut dire sensualistes, et les poètes métaphysiciens. Par exemple, Claudel, ce serait plutôt un métaphysicien. Pierre-Emmanuel aussi. Il y a des poèmes chez Heidegger aussi, peut-être. Sans doute, oui, il y a cette profondeur, cette recherche des essences qui peut errer. Hein. Et je ne dis pas que ce soit qui touche pile, mais en tout cas, il y a une recherche de l'être. Naturellement, c'est là que doit se situer l'interprétation des métaphores pour qualifier Dieu dans les Écritures. C'est la seule remarque que je ferai sur l'usage de la métaphore en théologie, parce que je sais que c'est un cas particulier, très particulier. Mais de fait, saint Thomas en parle assez fréquemment dans sa question 13 de la Prima Pars. Hein, je cite juste une phrase. Le nom de lion attribué à Dieu ne signifie rien d'autre que ceci. Dieu présente cette ressemblance avec le lion, qu'il agit avec force comme le lion. Alors, bon, l'image, en l'occurrence, renvoie à une réalité pour signifier seulement l'un de ses caractères. La métaphore est alors fausse si on la prend pour une attribution propre. Elle ne peut être vraie qu'en vertu du caractère auquel elle renvoie. L'analyse qui consiste à débusquer l'attribution propre cachée dans la métaphore transforme du même coup le discours poétique en discours métaphysique. Il remplace l'image par l'abstraction. Mais en perdant la grossièreté de l'image, si je puis dire, au profit de la vérité métaphysique, ne perd-on pas du même coup quelque chose de ce qu'on pourrait appeler une vérité métaphorique? Expression d'ailleurs, voilà, qu'utilise Paul Ricoeur, mais à vrai dire, Je l'ai presque découvert après l'avoir proposé. Mais peu importe. En effet, la métaphore, si elle est juste, comme dit Reverdy, à la justesse, si elle est juste dans le rapport qu'elle établit entre deux réalités hétérogènes, contient plus que l'attribution propre en un sens. Elle contient une proportionnalité puisqu'elle indique que comparé et comparant correspondent. La vérité métaphorique contiendra donc deux vérités, au moins, celle de l'attribution propre qui la fonde, et aussi la pertinence de l'image elle-même, hein, donc cette proportionnalité, à quoi s'ajoute le rayonnement esthétique que l'abstraction fait disparaître. Et là, je crois qu'il y a un peu une querelle entre les... Enfin, vous nous le direz parce que je ne sais pas trop. Il me semble qu'il y a une querelle entre les théologiens et les exégètes. Hein. Les exégètes sont attachés à l'image. Évidemment, dans l'Ancien Testament, il y a plein d'images. Et en effet, si on fait une lecture métaphysique, on perd l'image, on garde l'attribution propre. Mais est-ce que finalement, on ne perd pas quelque chose de la vérité poétique du texte, si je puis dire? Par exemple, si le miroir dit quelque chose de l'homme ou que le lion dit quelque chose de Dieu, cela n'enrichit pas seulement notre représentation de l'homme ou de Dieu, mais aussi celle du miroir et du lion, et des rapports entre miroir et homme d'une part et lion et Dieu d'autre part. Bref, dépouiller la métaphore de la proportionnalité qu'elle comporte au profit de l'attribution propre, c'est perdre la vérité des correspondances dont elle est l'expression même et dont elle signifie l'émerveillement, comme si elle nous disait que nous sommes dans un univers où les êtres correspondent entre eux, un peu comme dit Leibniz, en effet, là, c'est intéressant. Nous pouvons comprendre un être par un autre. Les êtres forment des communautés secrètes. Et ça suppose qu'il y ait des lois, hein, qui aient une intelligibilité commune aux êtres les plus éloignés, ce qui nous met sur la voie d'une mystérieuse unité des êtres, de l'universelle analogie dont parlait Baudelaire, dans son texte sur Victor Hugo, je crois que c'est dans l'art romantique. Alors, à ce sujet, Ricoeur a des expressions intéressantes, je les cite juste en passant, sans forcément commenter. Il dit ceci, par exemple, justement dans le chapitre qui s'appelle « Vers le concept de vérité métaphorique ». « Le verbe poétique nous fait participer par la voie d'une communion ouverte à la totalité des choses. » Intéressant. Et puis, une autre expression du même type, « L'ontologie des correspondances se cherche une caution dans les attractions sympathiques de la nature avant le tranchant diviseur de l'entendement. » L'entendement divise, l'imagination poétique unit. Mais elle synthétise. Là où l'entendement décompose, eh bien, l'imagination poétique compose, on peut dire, ou l'intuition poétique. Alors, même si sa démarche est intuitive, le poète vise alors le même objet que le métaphysicien lorsque il cherche les lois universelles de l'être en vertu desquelles tout correspond. Si la métaphore est d'autant plus forte qu'elle rapproche des réalités éloignées, ce n'est pas seulement par esthétisme, mais c'est parce qu'elle indique de manière d'autant plus grande que des similitudes réelles existent dans l'univers en vertu de lois ontologiques qui transcendent les espèces et les genres. Alors j'ai hésité à garder cette citation, mais je vous la donne juste pour le plaisir, si je puis dire. C'est Claudel qui dit dans son journal, cité par Ricoeur encore, « La métaphore, comme le raisonnement, rassemble, mais de loin. Mais de plus loin. » Voilà, alors c'est sûr que la métaphore, c'est le langage de l'intuition, hein, plutôt que de l'analyse et de la discursivité. Alors, deuxième volet, je vais un petit peu approfondir dans le même sens, en parlant d'une sorte de vérité picturale de la métaphore. Hein, j'ai parlé comme ça en passant de la grossièreté de l'image, mais est-ce qu'au fond, l'image n'a pas une finesse, un halo de signification, comme peut en avoir une peinture avec ses nuances, etc. La dimension esthétique de la métaphore n'est pas à négliger, hein, malgré la critique qu'on a faite donc, de l'esthétisme et de la synesthésie. Nous avons évoqué la faiblesse de l'esthétisme, qui ne révélerait que la sensibilité du poète à laquelle le lecteur accordera plus ou moins la sienne, mais la métaphore tient également, et plus encore sa valeur esthétique, de la réalité sensible elle-même, à laquelle elle emprunte ses images. De ce point de vue, la métaphore exalte la réalité sensible en tant que forêt de symboles, pour reprendre l'expression de Baudelaire. Autrement dit, la métaphore désigne le sensible comme signifiant, ce que l'abstraction ne peut faire dans la mesure où elle entend se situer au-delà du sensible, donc s'appauvrir de ce contenu concret au profit des idées. La vérité métaphorique est donc à la fois donc, une attribution propre différée, si je puis dire, une correspondance adéquate entre deux réalités hétérogènes, mais aussi une exaltation du contenu symbolique de la réalité sensible. Voilà, l'univers des métaphores est un univers de signes et de symboles qui se correspondent, la forêt de symboles, comme dans le poème de Baudelaire. La sensualité de la métaphore n'est pas une imperfection, mais une perfection qui participe à son rayonnement, comme s'il s'agissait d'une vérité s'adressant à la fois à l'intelligence et à l'imagination. L'âme ne pense pas sans image. Là, c'est deux en un, en quelque sorte. C'est l'idée et l'image à la fois. La métaphore consiste, sous ce rapport, à conférer une évidence sensible à ce qui n'en a pas, mettre devant les yeux, comme dit Aristote dans sa rhétorique, au livre 3, au chapitre 11, il y a tout ce passage où il dit qu'il faut mettre les faits devant les yeux. Et Ricoeur lui emprunte cette expression pour dire, oui, la métaphore, elle a cette force qu'elle met devant les yeux. Ce que ne peut faire l'abstraction, en effet. Elle est certes un procédé rhétorique qui suppose une invention de l'esprit, mais elle a cette vertu de proportionner une vérité à l'imagination de celui qui la reçoit. Il y a aussi, par ce procédé, une signification par suggestion qui fait que la métaphore n'est pas forcément grossière. Elle peut, selon sa pertinence, s'accompagner d'un halo sémantique plus ou moins suggestif. Alors là encore, les exemples, c'est tout un... des fois ça vient tout seul, des fois il faut chercher et c'est un petit peu forcé. Mais enfin, là je suis pas... Aristote propose par exemple la vieillesse, soir de la vie. Donc c'est dans la Poétique, chapitre 21. L'image donne au comparé une dimension picturale, une sorte de beauté tamisée, hein, avec la perspective d'une nuit et d'un matin. Bon. Ce halo de signification n'aurait pas été du tout le même si on disait, comme De Gaulle, vous connaissez ? La vieillesse est un naufrage. Suggérant donc un échec fatal dont il n'y a rien à attendre, à moins d'une chance inespérée. Donc on parle de la même chose et pourtant on dit tout autre chose. Ce que la métaphore perd en rigueur logique, elle doit le gagner en puissance de suggestion du côté de l'imagination. Ainsi, la vérité métaphorique serait assez proche de la vérité en peinture, non pas strictement intellectuelle et discursive, mais imaginative et intuitive, ce d'autant plus que le rapprochement entre les termes est immédiat. Alors, ça, c'est une remarque que fait Aristote, par ailleurs. Plus l'expression est laconique, mieux elle vaut. Là, on est toujours au livre 3 de la rhétorique. Et il ajoute, car on comprend plus vite ce qui est exprimé brièvement. Un peu comme le coup de pinceau, il faut que ce soit saisi. Et plus c'est travaillé, plus on perd l'effet en réalité. Voilà. Alors, je rappelle d'ailleurs qu'il y a des métaphores qui sont plus brèves que d'autres. Enfin, je rappelle d'ailleurs, je l'ai appris, hein, d'ailleurs, je ne le savais pas, puisqu'il y a des métaphores qu'on appelle in presentia, où le comparé est explicite, par exemple, exemple de Ricoeur cette fois, Jacques est un âne, ou métaphore in absentia, plus saisissante mais plus énigmatique, où le comparé est implicite. Quel âne ? Voilà, bon. Mais il y a toujours un peu quelque chose d'énigmatique, hein, dans la métaphore, et ça participe de son charme sans doute, et du fait que bon, c'est une ça appelle au mystère, on peut dire. Bon, l'exemple n'est pas très représentatif. Plutôt que de semer l'équivoque, si la métaphore est juste, eh bien sa plurivocité participe à sa vérité. La plurivocité de la métaphore, effectivement, c'est un peu sa force et sa faiblesse. Mais c'est sa force parce que, effectivement, comme on a dit tout à l'heure pour l'homme et la femme, deux miroirs vivants, on avait une interprétation, mais pourquoi pas une autre. Il y a une espèce de liberté de l'interprétation. Alors j'en arrive au dernier moment, c'est la question de savoir, est-ce que la métaphore donc suppose seulement une intuition ? Est-ce qu'elle ne suppose pas aussi une part de calcul ? Parce que qui dit proportionnalité dit un petit peu, effectivement, calcul. Enfin, en tout cas, oui, un certain esprit de géométrie, n'est-ce pas ? Et donc, je vais reprendre les termes de Pascal. Comme Il a plusieurs fois été dit, donc avec Aristote notamment, en fait non, je ne l'ai pas dit puisque je suis passé sans le citer, hein, bah, c'est l'occasion. Donc. Aristote dit que bien mener de la métaphore, c'est de voir le semblable, et il ajoute que c'est le don du génie. Ça, c'est dans la poétique, et dans la rhétorique, il a quelque chose d'analogue, il dit apercevoir des similitudes, même entre des objets fort distants, témoigne d'une grande sagacité. Donc voilà, il faut avoir cette perspicacité pour saisir et même une forme de génie. Il ne s'agit pas d'un rapprochement arbitraire, hein. Et ça c'est peut-être un peu l'écueil dadaïste ou surréaliste de croire que voilà, on va rapprocher des mots pour voir ce que ça fait. C'est pas très gentil pour les surréalistes, mais enfin bon, là il y aurait toute une analyse à faire, notamment chez Éluard. Les images chez Éluard, c'est quand même quand il dit par exemple le soleil doux comme une taupe. Le soleil, là on prend des objets tellement différents que l'effet sera évidemment étonnant, mais est-ce que vraiment il a maîtrisé, est-ce que vraiment ça vient d'une vision? Je pose la question. Alors, donc il ne faut pas que ce soit trop arbitraire, hein, ou trop énigmatique en tout cas. Il ne s'agit pas non plus d'un rapprochement évident ou éculé, et c'est là qu'on parle d'une métaphore morte, hein, et on emploie plein, hein, dans le langage courant des métaphores mortes. Quand on dit prendre la tête d'un pays, c'est même plus une métaphore. Hein, ça s'est lexicalisé, comme on dit. C'est-à-dire que la métaphore, ça c'est très intéressant chez Ricoeur, elle tient sa force de sa singularité. Dès qu'elle devient un lieu commun, elle cesse d'opérer. Mais on peut la ressusciter, ça c'est aussi ce que dit Ricoeur. On peut la délexicaliser. D'ailleurs, je vous fais remarquer que toutes les émissions de France Culture ont un titre qui est une métaphore morte ressuscitée. Par exemple, Concordance des temps, Réplique, La fabrique de l'histoire, ou des choses comme ça. Bon. Voilà, la précision est de mise, et en un sens, elle requiert à la fois donc l'esprit de géométrie, c'est-à-dire la justesse de la proportionnalité, et l'esprit de finesse, c'est-à-dire l'intuition des similitudes. Ouais. Au risque de détourner d'ailleurs un mot de Baudelaire, je pense que ça peut s'appliquer. Il dit tout ce qui est beau et noble est le résultat de la raison et du calcul. Et je repense aussi à une phrase de Jean Cocteau dans un recueil de pensées sur l'art. En fait, il dit une œuvre réussie, c'est une partie d'échec gagnée, échec et mat. Il y a une part de calcul froid. Bon, un peu comme aussi le comédien chez Diderot, vous savez, qui en fait calcule sa performance, il n'est pas dans l'émotion. Alors pour qu'il y ait une juste proportionnalité, en effet, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un calcul? Eh bien, voilà, c'est ce que je suggère et que je vais essayer de développer un tout petit peu. La métaphore, pardon, la force de la métaphore tient aussi. Nous l'avons dit, à la singularité du rapprochement qu'elle opère. Or, il serait erroné de voir sur ce point le poète comme un apprenti sorcier qui ferait des combinaisons au hasard, sans souci ni maîtrise de l'effet obtenu. Ce serait oublier que l'écrivain, et surtout le poète, hein, doit être au contraire celui qui maîtrise la combinaison des mots, hein, pour parvenir à dire, malgré la généralité des noms communs, quelque chose d'exact sur la réalité singulière. Et c'est là encore ce que peut-être l'abstraction ne fera jamais, alors que la métaphore peut au moins tenter de suggérer le singulier. Son art se compare alors plutôt à celui du chimiste. Comparaison, analogie, qu'on peut trouver chez Schopenhauer. J'aime beaucoup ce texte. Il dit: De même que le chimiste, en combinant des liquides entièrement clairs et transparents, obtient un précipité solide, de même le poète tire de la généralité abstraite des concepts, par la manière dont il les unit, le concret, l'individuel, la représentation intuitive. Et il conclut, la maîtrise en poésie, comme en chimie, consiste à obtenir à chaque fois précisément le précipité que l'on a en vue. Dernier mot, l'usage de la métaphore a aussi cette vertu, si elle est juste, vertu que l'abstraction n'aura jamais par définition, celle de dire, ou de suggérer du moins, le singulier par une heureuse combinaison, un heureux rapprochement. Mais ce rapprochement suppose avant tout une sagacité, comme dit Aristote, qui précède le calcul et qui consiste à voir d'abord la similitude cachée entre les êtres.